Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins du vendredi qui vous emmène chaque semaine à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. La philosophie est-elle une vocation? Comment viennent les idées? Comment se fabrique un concept? Et quel rôle le philosophe doit-il jouer dans la cité? Voici aujourd'hui le portrait en acte et par elle-même de la philosophe Isabelle Queval. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins
Merci
de la philosophie.
Merci de me recevoir.
Je vous ai définie comme philosophe. Comment vous présentez-vous?
En général, je me présente comme philosophe, professeur de philosophie et sur le plan universitaire, professeur en sciences de l'éducation, académiquement. Hein, voilà.
C'est un métier, philosophe?
Je ne sais pas si c'est un métier. C'est un exercice. Voilà, c'est un exercice dans diverses situations, dans diverses postures. Voilà, sans doute que c'est plus un exercice qu'un métier, de mon point de vue.
Nous allons passer 50 minutes ensemble pour comprendre ce point de vue, Isabelle Queval, pour comprendre votre pratique de la philosophie, en remontant jusqu'à votre rencontre avec la philosophie, en questionnant vos influences philosophiques et extra-philosophiques, en pénétrant dans votre atelier de fabricante de concepts et en réfléchissant au rôle politique de la philosophe que vous êtes. Mais d'abord, s'il fallait identifier un thème, une réalité autour de laquelle s'articule votre travail, ce serait sans doute le sport. Non seulement parce que vous êtes l'auteur d'un essai sur le sport contemporain, d'un autre essai sur le sport entraîné, dopé, appareillé, d'un petit abécédaire philosophique sur le sport, mais surtout parce que vous avez vous-même pratiqué le sport de haut niveau avant de devenir prof de philo.
Qu'est-ce qu'elle va arriver? Qu'est-ce qu'elle va arriver, Martinez? Allez,
on va avoir du mal là. Allez,
prends! Eh, c'est bien joué! Le break est fait! Et voilà Marie Pierce qui prend l'avantage qui vient! On a crié dans la cabine avec Jean-Paul, avec Henri.
Il faut revenir maintenant. Oh là là, extraordinaire. Quel point, encore une fois.
Elle est bonne!
Je ne sais pas.
Si, si, elle est bonne. Elle est bonne, j'en sais. C'est là une balle de match.
Son meilleur rendez-vous,
c'est fini! C'est terminé, bravo Marie Pierce, elle a gagné, elle l'a mérité. 1h52 en levant les bras au ciel.
Vous reconnaissez ce que nous sommes en train d'écouter?
Alors, je pense qu'on reconnaît la finale de Roland-Garros de Marie Pierce en 2000.
Exactement.
Voilà.
Comment êtes-vous devenue joueuse de tennis de haut niveau, Isabelle Queval?
Je suis devenue joueuse de tennis parce que j'étais déjà une enfant très sportive, que mon père, qui était professeur d'éducation physique, travaillait pour la Fédération française de tennis, que j'ai donc eu l'opportunité de jouer au tennis assez jeune, et que très vite, j'en ai fait un projet de vie. Voilà. Et c'est finalement sans doute ce qui caractérise le début de mon parcours, au-delà du nombre d'années pendant lequel j'ai pu jouer sérieusement, on va dire intensément, au tennis.
C'était combien de temps?
C'était toute l'adolescence, voilà, jusqu'au début des études, et puis j'ai continué après, mais pas au même niveau. Ce niveau que je voulais atteindre, c'était un projet d'existence, c'est-à-dire que ça animait, que ça habitait tout mon imaginaire, toute l'organisation de ma vie, de mon quotidien, de ma scolarité. C'était beaucoup plus qu'un hobby. C'est pas quelque chose que j'ai fait en plus. C'est quelque chose que j'ai fait avec une dimension d'implication réelle, si ce n'est totale, dans le but d'aller au plus haut niveau.
Voilà. Et vous jouiez à quel niveau à ce moment-là?
Alors, j'ai été en équipe de France dans les catégories de jeunes, voilà, 13-14 ans, 15-16 ans, 17-18 ans. Donc, j'avais ce niveau national qui faisait que dans les championnats de France, j'étais toujours dans les 3-4 premières. Voilà.
Et pourquoi avoir renoncé?
Pourquoi avoir renoncé? Parce qu'à un moment donné, sans doute, ça a été trop. Sans doute ça a été déséquilibré et que je n'avais pas perdu l'envie de faire des études. Alors cette envie, elle était un petit peu sinueuse dans mon parcours parce que j'ai fait l'intégralité de mes études par correspondance, donc à distance, et donc au fond il dépendait de moi et de moi seule quasiment, d'aller dans les livres chercher ce qui pouvait m'intéresser et en particulier au travers du programme scolaire. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai rencontré en seconde, première, les philosophes des Lumières, il y a un déclic qui s'est fait. Je lisais les philosophes des Lumières sans les connaître puisque c'était des extraits, en même temps que je partais en tournoi avec cette idée que sans doute je les retrouverai à un moment donné. Mais c'était pour après.
Donc ce sont les philosophes des Lumières qui ont incarné votre première rencontre avec la philosophie.
Sans doute, mais à une époque où je ne sais absolument pas ce que c'est que la philosophie.
Ouais. Donc comment vous décidez d'ouvrir ce livre ou ces livres?
J'ouvre les livres parce que ce sont des auteurs, Rousseau, Voltaire, qui sont au programme, pas tellement pour leur activité philosophique, mais au moins pour leur activité littéraire, et que par ce biais-là, je découvre les Lumières. Ouais. Mais jusqu'en terminale, je ne sais pas ce que c'est que la philosophie.
Et vous vous souvenez d'un texte en particulier ou d'un auteur qui vous a marqué, qui vous a vraiment peut-être converti à la philosophie?
Alors, converti à la philosophie, c'était le programme de terminale, c'est Freud, c'est Sartre, c'est surtout une manière de réfléchir que j'ai découvert à cette époque par le biais des cours à distance qui m'était adressée, donc par des professeurs du CNED en l'occurrence, et leur manière d'écrire, puisque au fond ce n'était que des cours écrits, cette manière d'écrire, de concevoir, de conceptualiser m'intéressait énormément. Ça a été un coup de foudre, immédiat, mais beaucoup plus une intuition au fond qu'une vocation.
Si c'est votre question.
Non, je sais tout de suite que c'est ça. Et je sais pas du tout où ça me mènera. Tout le monde me dit que faire de la philo, bon, ça m'aide nulle part, ni à un travail, ni à quelque chose de certain. Mais cette manière de faire, c'était d'une certaine manière déjà la mienne au fond. Et c'est pour ça que je dis c'est une intuition.
Voilà. C'est-à-dire, c'était déjà
ça correspondait à l'enfant que j'avais été, à voilà, aux manières que j'avais de penser, alors que j'ignorais tout. Je savais même pas qu'il y avait des auteurs spécifiques à la philosophie. J'avais beaucoup lu, énormément lu, mais essentiellement de la littérature. Et donc, c'était la rencontre entre des auteurs et une manière de penser que bon, je reconnaissais comme étant la mienne et que il fallait après travailler.
Et à quel moment vous vous dites que vous arrêtez le tennis et que vous allez faire des études de philo et en faire votre métier?
Alors, est-ce que je me le suis dit comme ça? Sans doute non. Bon, vous savez, le haut niveau, ça supporte pas beaucoup de pauses. Ça supporte assez mal le doute. Moi, j'étais quand même habitée, constituée par le doute. Et à un moment donné où je souhaite m'investir dans mes études, parce que au final, après les avoir interrompues, je souhaite avoir mon bac. À ce moment-là, d'une certaine façon, ce travail, cet investissement me dévore, et d'une certaine manière, je transfère l'investissement précédent que j'avais pu avoir dans le sport vers les études.
Vers la philosophie de haut niveau.
De haut niveau, certainement pas au début. Certainement pas.
Voilà. Est-ce que vous voyez un lien entre l'investissement, puisque c'est le terme que vous employez, que vous mettez dans la pratique du tennis, et puis ensuite dans la philosophie? Est-ce qu'il y a par exemple un désir de théoriser une pratique ou de creuser des questions soulevées par une expérience? Parce que finalement, vous dites il y a quelque chose en commun, mais qu'est-ce que c'est cette chose en commun?
Alors, c'est pas du tout la volonté de réfléchir sur ce que j'avais fait. Au contraire, ce que j'avais fait a été en quelque sorte, et pour de longues années, repoussé par une forme de déni, selon l'idée, finalement, que je me faisais de la représentation du sport dans un milieu de philosophes universitaires, avec des comparses étudiants philosophes, etc. Il me semblait devoir, finalement, mettre à l'écart cette pratique, mettre à l'écart ce passé, presque m'en excuser, et surtout ne jamais faire sportive dans l'univers nouveau qui était le mien. Voilà.
C'est ce que vous, on vous faisait sentir de cette manière-là.
Alors, je ne sais pas si on me l'a fait sentir ou si moi-même, dans ma représentation, je l'ai construit comme ça. Mais j'ai pas du tout fait de la philosophie pour réfléchir sur ce que j'avais fait dans le sport. J'ai fait de la philosophie pour faire tout à fait autre chose, sachant que cette autre chose était déjà en moi et que finalement, probablement depuis l'enfance, je portais cette double destination, on va dire, qui était à la fois de faire du sport et d'avoir une pratique sportive intensive, et aussi de pouvoir m'investir dans des études.
Voilà. Des intellectuels qui font du sport, des intellectuels qui réfléchissent sur le sport, il y en a, ils ne sont peut-être pas très nombreux, il y en a un parmi les autres qui a particulièrement compté pour vous, c'est Georges Vigarello.
D'un côté, le corps, c'est une sorte de réalité immédiatement tangible et saisissable. Et en même temps, c'est une réalité qui est au cœur de représentations qui peuvent prendre de la distance par rapport à cette réalité. Et en histoire, ce qui me paraît tout à fait passionnant du coup, c'est de travailler sur les représentations. Par exemple, il y a une manière de se représenter le corps au Moyen-Âge qui n'a aucun rapport avec la manière dont nous le représentons aujourd'hui. Et on voit comment, à travers ce dispositif de représentation, s'inscrit quelque chose qui est de l'ordre de l'histoire.
Vous écoutez Georges Vigarello sur France Culture, les chemins de la philosophie, en compagnie de la philosophe Isabelle Queval, qui nous accompagne aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Profession Philosophe. Quel rôle Georges Vigarello a joué dans votre carrière, Isabelle Queval?
Georges Vigarello a été professeur d'EPS, puis agrégé de philo, puis historien. Au moment où j'ai décidé, bien des années plus tard, que j'allais entreprendre une thèse, d'une certaine façon, ça ne pouvait être qu'avec lui. Voilà. Comme si, au fond, il fallait cette double expérience pour vraiment comprendre certaines problématiques. Alors, je ne dis pas du tout qu'il faut absolument avoir fait du sport ou l'avoir pratiqué de manière intensive pour le comprendre, mais je dis simplement que je partageais ça sans le connaître avec Georges Vigarello, dont j'avais lu à peine quelques articles, et que quand nous nous sommes rencontrés, voilà, le lien s'est fait autour de ça. Donc, nous avons eu l'occasion ensuite de collaborer, de faire pas mal de choses ensemble. Et oui, les personnes avec ce statut-là dans la vie universitaire française sont finalement pas si nombreuses.
Et Georges Vigarello fait partie de ces historiens qui a pris le corps comme un objet d'étude et qu'il étudie encore aujourd'hui sous toutes ses facettes. Il écrit sur l'obésité, il écrit sur les robes, il écrit sur le gras, il écrit sur le visage, etc. Et l'importance de travailler sur les représentations du corps dans la société est très présente dans son travail. De votre côté, vous vous dites que c'est aussi à partir du corps que vous allez travailler en philosophie?
Tout à fait, mais je me le suis pas dit tout de suite.
C'est venu
parce que c'est venu bien après. Entre temps, pas mal d'eau a coulé sous les ponts, je dirais, puisque j'étais déjà professeur de philosophie depuis des années. Quand finalement ce sujet de recherche, ce sujet de thèse, c'est formé, c'est formulé. Comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, j'ai plutôt mis à distance tout ce qui était cette part de mon histoire liée au sport et lié au corps, et donc il fallait trouver, briser en quelque sorte ce frein, ce plafond de verre pour trouver des sujets de recherche qui puissent réconcilier les deux.
Alors votre sujet de recherche, Isabelle Queval, une manière de le présenter, c'est d'écouter ceci.
Apprenti des fixes, allez mon chien, rapporte là. Je vais apprendre à porter des menhirs, Astérix.
Tu sais, Obélix, ce n'est pas que je mette en doute l'intelligence d'Idéfix, mais je me demande quelquefois s'il n'est pas un peu petit pour tes menhirs.
Celui qui vient de parler avec tant de sagesse n'est autre qu'Astérix, le meilleur guerrier du village. Mais, nous direz-vous, comment ce petit village avec sa poignée de guerriers peut-il résister encore et toujours au puissant envahisseur romain? Eh bien, c'est grâce à la potion magique que prépare le druide Panoramix et qui donne une force surhumaine à ceux qui ont le bonheur de la boire.
Non, Obélix, non. Les effets de la potion sont permanents chez toi. Tu sais que tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit.
Chic des Romains.
Hey! Vous soutenez votre thèse, Isabelle Coval, en 2002 sur le sujet suivant. Le complexe d'Astérix, généalogie du dépassement de soi dans sa version sportive et dopante. Comment êtes-vous venu à choisir Astérix comme, alors pas sujet d'étude, mais comme nom du complexe que vous étudiez?
Oui, alors c'est pas forcément la meilleure idée que j'ai eue, mais
nous on a tous été convaincus.
Bon, la réflexion que j'ai sur le dopage est une conséquence en fait d'une réflexion un peu plus ancienne que j'avais sur la définition de l'excellence et en particulier de l'excellence corporelle. Voilà, quelque chose s'est formulé qui consistait à interroger la définition de l'excellence. Peut-être à partir de ma propre expérience, à savoir est-ce qu'elle signifie un équilibre, un bien-être, une forme de perfection, on va dire, dans la tempérance, pour reprendre des mots un petit peu grecs, ou est-ce qu'elle signifie forcément l'extraordinaire, c'est-à-dire le dépassement, quelque chose qui est du registre de la performance et donc de l'amélioration. Et cette tension-là, finalement, je l'avais ressentie très longtemps en moi, et je l'ai formulée pour pouvoir écrire cette thèse. Et il est apparu évidemment que dans la version de l'excellence qui conduit au dépassement permanent et à la recherche de performance, en particulier dans le sport de haut niveau, le dopage apparaissait comme une vraie question, voilà, comme un vrai effectivement complexe, à savoir que dans cette logique d'amélioration constante à partir de tous les paramètres techniques et autres qui composent le sport, le dopage apparaît de manière assez logique au bout du processus, et même s'il est finalement illégal et nocif.
Donc la potion magique d'Astérix, pour vous, c'est une forme de dopage?
Oui, c'était une image. Oui, c'est une forme de dopage, oui.
Parce que le complexe d'Astérix, c'est le titre de la thèse. Qu'est-ce que c'est le complexe d'Astérix?
Le complexe d'Astérix, c'est le fait d'imaginer qu'on ne peut pas accomplir ses activités, quelles qu'elles soient, quotidienne, parfois banale, sans consommer quelque chose, en l'occurrence un aliment, une boisson, une substance, qui va améliorer nos capacités. Voilà. Et c'est quelque chose qui est très contemporain, au-delà, bien au-delà du sport de haut niveau et même du sport tout court, parce que nous sommes dans une société où finalement la notion de santé a glissé du bien-être vers le mieux-être, toujours. C'est-à-dire que dans la publicité, par exemple, lorsqu'on voit publicité pour les aliments, pour les céréales, pour les enfants, etc., il y a toujours cette idée que un additif, un adjuvant va permettre d'optimiser. Alors ça commence avec des vitamines, ça commence bien sûr avec le jus d'orange, le café, etc., qui n'ont absolument rien d'illégal. Mais ce qu'on appelle l'attitude dopante, ce que les spécialistes appellent l'attitude dopante, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que le dopage au sens strict. C'est cette idée que pour parler en public, pour aller travailler le matin, pour faire sa partie de tennis, il vaut mieux avoir consommé quelque chose qui puisse optimiser notre performance. Alors les revues de sport, les revues qui lient santé et sport, sont pleines de ces études sur les aliments de la performance.
Et là, c'est contemporain pour vous? C'est
très contemporain, très très contemporain. Voilà. Très contemporain. Alors, ces aliments, ces substances, ces compléments alimentaires, parfois ces drogues, voilà, sont perçus tout à fait différemment selon les milieux. Il se trouve que le sport de haut niveau extrémise en quelque sorte cette pratique et puis est l'objet d'une législation sur ces consommations, donc sous le feu des médias. Mais dans beaucoup de pratiques, de métiers, de communautés, de professions, les gens sont attentifs, voire dépendants de substances qui sont censées désinhiber, empêcher de dormir.
Pour être au meilleur d'eux-mêmes, c'est ça? Au meilleur d'eux-mêmes.
Alors, au meilleur d'eux-mêmes.
Et atteindre l'excellence, comme
oui,
ce que vous disiez.
Oui, et meilleur qu'eux-mêmes. Ouais. Voilà, hein, meilleur qu'eux-mêmes. Voilà. C'est une manière de se projeter toujours et d'une certaine façon aussi de s'arracher à soi-même.
Parmi les philosophes qui ont compté pour vous, on trouve aussi celui-là.
Il me semble que je suis incapable de parler d'autre chose que de ce que j'ai éprouvé. Et il m'arrive souvent, dans mon travail d'artiste, d'exprimer, de parvenir à donner une forme à des sentiments ou à des idées qu'au fond, j'éprouve depuis longtemps sans avoir osé jusque-là leur donner cette forme et cette expression. En somme, je pourrais dire que je marche du même pas comme artiste et comme homme, et que cela peut expliquer ce qu'on a appelé mes évolutions. En fait, ça n'est pas mon œuvre qui évolue, c'est ma vie.
Je marche du même pas comme artiste et comme homme. Albert Camus prononce cette phrase en 1955. Qu'est-ce qui vous plaît tant chez Albert Camus, Isabelle Queval ?
Alors, j'ai beaucoup aimé Albert Camus, notamment donc quand j'ai entamé mes études de philosophie, parce que il y a dans l'œuvre de Camus quelque chose de l'ordre de la chair, voilà, que je ne trouvais pas à l'époque chez d'autres philosophes, de la chair revendiquée, et j'entends par là notamment du soleil, de la plage et du sport. Voilà. Ça me paraissait extraordinaire de pouvoir imaginer philosopher à partir du corps, de la chair, de la plage et du soleil. Et j'aime beaucoup ce passage dans l'un de ses textes où Camus dit « Au fond, il y a une philosophie du Nord et sans doute les grands philosophes sont du Nord parce que il y fait un temps rigoureux et que finalement ça conduit à une philosophie rigoureuse, si ce n'est rigoriste. Et puis il y a la vie au Sud. Et cette problématique-là, elle me touche profondément parce que dans les, on va dire dans les événements fondateurs de mon parcours, il y a la chance que j'ai pu avoir quand j'étais enfant de passer 2 mois tous les étés au bord de la mer en Bretagne, sur la plage. Voilà. Et c'est fondateur parce que d'une certaine manière, c'est l'expérience de la liberté complète. Voilà. Je cours le long de la plage, je cours sur les rochers, je me raconte des histoires, je me chante des chansons et je cours et j'imagine mon existence. Et c'est fondateur aussi parce que ce rapport soleil-froid, été-hiver, je le trouve intéressant. Je me suis souvent demandé si, habitant dans un pays chaud, j'aurais fait de la philosophie, j'aurais même fait peut-être des études. Voilà, cette question-là, elle est aussi finalement peut-être aussi difficile à assumer que le fait d'avoir été sportive dans un milieu académique de philosophe, dans le sens où je me vivais comme quelqu'un qui était d'une certaine façon un télo l'hiver, mais l'été, voilà, que du corps.
Et c'est un conflit entre les deux, entre la philosophie et le corps, entre l'hiver se réfugier dans l'intellect et l'été
c'est
au contraire
dualité.
Se prélasser.
C'est une dualité.
Mais qui harmonieuse ou conflictuelle ?
Bon, qui est devenue harmonieuse.
Qu'il est devenu.
Qu'il est devenu, parce que mon parcours dans un sens et dans l'autre a fait que j'assumais ces choses-là. Mais au moment où ces choses-là n'étaient pas du tout réfléchies, réellement, je le vivais comme une dualité. Et quand j'entendais mes collègues parler de tout ce travail abattu pendant l'été, j'ai écrit tout l'été, j'ai travaillé tout l'été, etc. J'ai préparé mes cours. Quand j'étais professeur, ça tout l'été, je me disais, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait cet été ? Je n'ai fait que du sport. Voilà. Je n'ai fait que de la plage, je n'ai fait que du soleil, je n'ai fait que du corps. Et je me suis aperçue quand même assez tardivement que c'était absolument vital pour moi et que ça servait à rien de dire que j'avais travaillé tout l'été ou que je travaillais en vacances ou que j'amenais mes livres de travail en vacances parce que ça n'était tout simplement pas vrai. Et chez Camus, il y a ça, quand il raconte que son ami nageur ne se pose pas de questions parce qu'il nage. Bon, moi j'aime bien aussi cette vision-là, et j'aime bien aussi cette vision plus froide, parce que ça fait partie aussi de notre culture. Je n'ai pas la réponse, si j'étais née dans un pays chaud, je ne sais pas si j'aurais fait d'études, finalement je ne le saurais pas. Mais j'aime bien aussi cette rentrée d'automne et d'hiver dans une forme de sérieux et d'ascétisme, et là c'est le temps des études. Voilà.
Est-ce qu'on peut faire du sport l'hiver aussi ?
Bien sûr, j'en fais l'hiver, j'en ai toujours fait l'hiver.
Parce que c'est comme si, en fait, vous présentez la philosophie comme une manière de se réchauffer, de se protéger du froid.
Je la présente comme une occupation, à un moment donné, la meilleure occupation qu'on puisse avoir quand il n'y a pas de soleil. Voilà.
Alors, si on rentre dans votre tête, alors on a entendu Camus, Georges Vigarello, Astérix, on trouve aussi, de manière extra-philosophique, mais non moins importante, cette chanson.
Thank you. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Qu'on y croit ou
vous
pas,
écoutez Stromae sur France Culture, Papa Outé, c'est une suggestion de votre part, Isabelle Coval. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette chanson?
Alors j'aime bien les textes de Stromae parce qu'il y a une acuité à la fois ironique et désespérée. Et puis j'aime bien la chanson d'une manière générale, en particulier la chanson française, parce que c'est un exercice où en quelques mots, tout est dit. Voilà. Je trouve que dans cette chanson-là, assez vite, tout est dit. Et ça, je trouve que c'est plaisant à écouter, c'est plaisant de déconstruire un petit peu le texte. C'est ce que j'aime bien dans cette chanson et puis dans d'autres, bien sûr.
Quand vous dites que tout est dit, en quelques mots, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il y a une histoire qui se raconte, un début, une fin?
Il y a une histoire, il y a toute une vie, voilà, en quelques mots. C'est ça l'exercice de la chanson. Moi, j'aime beaucoup cet exercice, j'aurais bien aimé...
Vous en écrivez?
J'en ai écrit pour moi, oui. Je trouve que c'est un exercice extrêmement stimulant. Avoir une contrainte comme ça, de quelques lignes, de quelques minutes, pour raconter toute une histoire, oui, je trouve ça très stimulant.
Et c'est le texte plus que la mélodie ou la musique qui vous inspire?
C'est les deux. Oui, c'est les deux.
Vous écoutez de la musique quand vous travaillez?
Non, jamais.
Pourquoi?
J'écoute très peu de musique.
En général,
voilà. Et surtout pas quand je travaille. Voilà. J'écoute de la musique quand j'en écoute, quand je suis en mouvement. J'écoute très peu de musique parce que je préfère le silence. Voilà. Et j'essaie de trouver des qualités de silence qui me conviennent. Voilà.
Et lorsque vous écrivez dans ce silence, est-ce que vous arrivez à voir comment vous procédez? Comment une idée vous vient? À quel moment est-ce que vous décidez que telle idée, vous allez la coucher sur le papier? Je l'ai dit, hein, vous avez écrit sur le corps et sur le sport. Ce sont à la fois des sujets d'études, en même temps des sujets de pratique pour vous. Mmh. Donc est-ce que c'est la pratique, l'expérience qui vous donne envie d'écrire sur ce sujet-là? Ou est-ce que ça vous procède à l'inverse?
Alors, si vous me demandez comment j'écris dans la cuisine quotidienne, on va dire, de
aussi,
l'écriture,
oui.
J'écris à peu près de la même manière que je fais du sport. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un préambule qui peut être parfois très long, qui est celui de 6 mètres. Je l'ai un petit peu décrit dans mon livre Philosophie de l'effort, pour dire qu'avant qu'on puisse s'asseoir et commencer, il y a déjà toute une vie avant. Voilà. Il y a beaucoup de barrières à franchir, il y a... Voilà. Et donc, dans le sport, on essaye de s'y mettre déjà régulièrement, d'y aller tous les jours et de persévérer même quand les sensations sont mauvaises et même quand on a une forme de dégoût parfois de ce qu'on fait, de ce qu'on a fait, de sa performance, en l'occurrence de son texte, etc. Et j'ai cette obstination, on va dire, quand je commence à écrire, qui est que il faut y aller, il faut passer un certain nombre d'heures à s'efforcer de faire pour le mieux. Ça sera pas forcément le cas, mais au final, c'est cette persévérance, cette quotidienneté, cette régularité, une forme d'ascétisme dans les horaires aussi, voilà, quelque chose finalement d'assez routinier qui permet, en tout cas à moi, d'arriver à quelque chose.
Et jusqu'où tient le parallèle entre l'écriture et le sport? Est-ce qu'il y a un échauffement? Alors vous avez l'air de dire que oui, avant d'écrire. Et est-ce qu'on peut atteindre parfois comme un second souffle? Est-ce qu'il y a la même fatigue qui parfois nous ralentit?
Oui, c'est la même chose, de la même manière que parfois, enfin, je me souviens de cette phrase de Paul Morand qui disait « je n'aime pas écrire, j'aime avoir écrit ». Bon. Oui. De la même manière, on peut dire très souvent « je n'aime pas courir, j'aime avoir couru ». Voilà. Donc ça c'est le quotidien, c'est 80% on va dire de la pratique. Et puis pour les 20% restants, de temps à autre, il y a un éclair, c'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on maîtrise, que on est créatif, que on est facile, que voilà, c'est la même chose. Moi j'ai pu transférer des sensations qui sont les mêmes. Et puis à l'inverse, il y a parfois des fois où on n'arrive à rien, de la même manière qu'on n'arrive pas à respirer, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à produire, on n'arrive pas il y a cette espèce d'écran face à soi, de difficultés, on va dire, d'obstacles. Mais la gestion du temps est à peu près la même. Voilà.
Et quand vient le plaisir? Quelle place tient le plaisir dans ces deux pratiques?
Le plaisir, c'est d'avoir réussi à faire quelque chose. C'est aussi, pour ce qui me concerne, d'avoir pu réaliser cette régularité. Et puis, de temps à autre, effectivement, le plaisir de maîtriser ce qu'on fait. Voilà. On maîtrise ce qu'on fait, on a le sentiment de le faire bien. Mais ça ne dure pas toujours.
C'est ça, et donc c'est comme un résultat, voire une récompense éphémère.
Voilà.
Donc c'est une vie de contraintes. C'est assez rigoureux ce que vous décrivez.
Sans doute, moi je le vis comme ça. Voilà, je le vis comme ça. J'ai beaucoup écrit pour moi-même. J'ai beaucoup, comme tout apprenti, on va dire, étudiant dans des disciplines plus ou moins littéraires. Bon, j'ai écrit des choses, mais écrire pour produire quelque chose qui sera à destination des autres, effectivement, ça requiert un certain nombre de contraintes.
Et ça, c'est un désir chez vous, vous voulez être lu, ce que vous écrivez, vous publiez, vous pourriez simplement enseigner.
Oui, c'était un rêve. C'était un rêve. Pourquoi? Eh bien parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai donc fait l'intégralité de mes études à distance, dans une certaine solitude, avec assez peu de repères sur ce que pouvaient être des études. J'ai dit qu'à finalement, en abordant la terminale, je ne savais pas ce qu'était la philosophie, mais je ne savais pas non plus ce que c'était qu'une classe préparatoire. J'avais aucune idée de ce système-là. Je vivais dans un village à la campagne, assez éloigné de tout centre, on va dire urbain, etc. Le monde universitaire n'était même pas une représentation pour moi. Et donc, là, j'ai d'une certaine manière forgé mon second plafond de verre, à savoir que côté estime de soi, légitimité, j'avais énormément de choses à prouver, à moi-même d'abord, mais aussi aux autres, et que écrire, c'est un moyen de communiquer, c'est un moyen de dire, attendez, vous avez votre vie là-bas, qui est active, que moi je perçois de manière confuse et de très très loin, et j'arrive, quoi, attendez, j'ai des choses à dire, voilà, donc c'était très important d'être publié.
Aussi important que d'enseigner la philosophie?
Beaucoup plus important, ouais.
L'essentiel de votre travail est donc plus dans l'écriture que dans le rapport à la transmission d'un savoir.
C'est important la transmission, c'est très important. Mais j'ai mis très longtemps à coïncider avec le plaisir de la transmission que peut-être je portais en moi, mais j'ai commencé à enseigner comme tout jeune prof de philo dans des conditions qui étaient loin d'être idéales. J'étais en particulier dans un lycée technique qui accueillait majoritairement des garçons, futurs électroniciens, électromécaniciens, etc. Moi j'étais jeune prof de philo, n'ayant jamais été à l'école, n'ayant jamais été élève. La difficulté était quand même importante. Bon, alors peut-être qu'au travers de ça, j'ai cherché aussi à renforcer cette légitimité. C'était le défi ultime pour moi, d'une certaine façon. Bon, donc les premières années d'enseignement de la philo, c'est plus de la souffrance que du plaisir.
Et aujourd'hui, ça devient du plaisir?
Aujourd'hui, c'est du plaisir parce que d'abord, évidemment, en étant universitaire, j'ai moins d'heures à effectuer. J'ai des publics qui sont adultes, avec des échanges qui sont très différents de ce qu'on peut avoir dans un lycée.
Et alors, si on revient sur votre bibliographie, les ouvrages que vous avez écrits, le dernier, vous l'avez dit, s'appelle « Une philosophie de l'effort ». Mmh. Comment est-ce que vous passez de votre intérêt pour la performance, pour le rapport au corps dans ses excès, y compris même dans le cas du dopage dont vous parliez, à votre intérêt pour cette notion même d'effort ? Vous arrivez à voir, est-ce que c'est une attention au monde contemporain, parce que la perception de l'effort a changé ?
Oui, bien sûr. C'est une volonté d'interroger l'effort tel qu'on le pense habituellement, à savoir comme quelque chose qui est plutôt difficile, qui peut faire souffrir, qui nécessite de la volonté, et à l'issue de quoi on mérite une reconnaissance. On peut parfois obtenir un résultat, parfois on ne l'obtient pas, mais on dit, au moins, il a fait des efforts. Et donc, c'est cette reconnaissance d'un certain type d'effort que j'ai voulu questionner pour savoir si, finalement, dans cette définition de l'effort qui est toujours projection vers un progrès, projection vers une performance, projection vers une amélioration, à la fois au niveau de l'individu, mais aussi de la société, c'est-à-dire à qui profitent les efforts que l'on fait dans le monde du travail, dans la société en général, j'ai voulu questionner le fait que ce soit la seule manière, au fond, de concevoir l'effort, c'est-à-dire comme un arrachement à soi.
Mm-hmm. Voilà. Est-ce que l'effort est une vertu ?
Eh bien, ça dépend comment on le pratique et comment on le définit. Et j'ai essayé de questionner cette formulation qui est un peu spinoziste, à savoir l'effort sans effort, c'est-à-dire quelque chose qui ne soit pas un arrachement permanent à soi, au temps, au présent, quelque chose qui puisse être aussi de l'ordre de l'accomplissement.
Oui, Spinoza qui dit que exister, c'est persévérer dans son être. Mmh. Donc il y a cette idée d'effort qui est à la base même de l'existence.
Oui, mais sans avoir à faire un acte volontaire particulier, sans avoir à faire un acte d'arrachement. Voilà.
Alors, est-ce que vous êtes aujourd'hui, dans le cadre de votre enseignement, et même plus largement dans la manière que vous avez d'appréhender l'éducation philosophique et sportive aujourd'hui, inquiète au sujet de la place qu'occupe l'enseignement sportif dans l'éducation en France aujourd'hui ?
Oui, je ne suis pas la seule à être inquiète. Effectivement, il y a de quoi. Je suis frappée par un paradoxe. Au fond, on entend dans les médias et par tous les canaux, on va dire, de publicité ou autre, qu'il faut bouger. Voilà.
Manger, bouger.
Et donc, les adultes inventent des systèmes. Ils sont incités à travailler debout, à travailler sur un vélo d'appartement, à travailler assis sur un ballon de fitness, à travailler même en marchant avec des supports pour leur ordinateur. Et au fond, pour notre bonne santé, et bien sûr, c'est là l'expression d'un nouvel hygiénisme, il faudrait bouger. Bon. Et le paradoxe, c'est que concernant l'éducation des enfants, des adolescents, et en particulier dans le monde scolaire qui occupe quand même la majeure partie de leur temps, on continue d'abord à leur proposer si peu d'heures d'éducation physique et sportive, et ensuite de ça à concevoir les espaces, c'est-à-dire les classes, les cours d'école, comme on le faisait dans les années 60 ou même encore dans les années 80. Prenez une photo de classe dans les années 60-80, prenez une photo de classe aujourd'hui, vous avez quasiment la même image, c'est-à-dire des rangées de tables derrière lesquelles sont des rangées d'enfants. Bon, sauf, à dire, exception ou méthode expérimentale. C'est-à-dire qu'en fait, la place du corps à l'école, elle est ridicule. Voilà, elle est ridicule. C'est-à-dire qu'on nous dit il faudrait que les enfants bougent. Ce sont des études alarmantes, ce sont des études à l'échelle d'un pays, d'un type de société occidentale, etc. On nous dit qu'il faut que les enfants, notamment à l'âge du primaire, bougent au moins une heure par jour. Je voudrais bien savoir quand est-ce qu'ils peuvent bouger, alors que après 6 ou 7 heures d'école, ou de collège, ou de lycée, il y a encore des devoirs, il y a encore des choses à préparer.
Oui, donc là, c'est au-delà de l'enseignement de l'activité physique à l'école, c'est la place du corps dans l'école.
C'est les deux, ouais. C'est les deux, et les deux peuvent aussi être liés. C'est-à-dire que le nombre d'heures spécifiques assurées par les professeurs de PS est ridiculement faible, au regard des besoins et des avantages multiples qu'ils peuvent procurer.
C'est combien d'heures par semaine?
En sixième, c'est 4 heures. Bon. Ensuite, c'est 3 heures. Et au lycée, c'est 2 heures. Bon. Vous ôtez de cela les temps de déplacement, de transport, de déshabillage, de rhabillage. Vous pouvez diviser par 2 le temps effectif de pratique. Bon. À l'école primaire, c'est normalement quasiment tous les jours, mais c'est à la discrétion évidemment des professeurs des écoles et des éventuels intervenants qui viennent dans les écoles. Donc c'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Donc il faut que les enfants aient des pratiques extrascolaires qui sont rendues difficiles par, on va dire, des quantités de facteurs. D'abord le temps scolaire suivi du temps de devoir, ensuite les horaires de travail des parents, ensuite les finances, ensuite l'organisation familiale, etc. Voilà. Donc ce hiatus me frappe entre ces recommandations qui viennent de toutes parts, ce que les adultes quand même, bon, dans certains milieux plus particulièrement, mais s'efforcent de mettre en pratique. Alors, on va courir le midi, on essaie de bouger, on travaille debout, etc. Et puis, ce qui est proposé aux enfants. Voilà.
Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement? Parce que proposer davantage d'enseignement sportif, ça veut dire aussi proposer moins d'enseignement scientifique ou littéraire.
Voilà, mais d'autres pays le font. D'autres pays, depuis très très longtemps, ont raccourci leur journée de cours qui s'arrête à 14 ou 15 heures. Bon. D'autres pays, je pense toujours à la Finlande qu'on cite en exemple, mais conçoivent des espaces scolaires dans lesquels les enfants peuvent bouger. Car aujourd'hui, bouger dans sa classe, pour un enfant, c'est loin d'être bien vu. L'enfant, le corps de l'enfant à l'école, c'est un corps contraint, c'est un corps qui doit être le plus possible immobile. Voilà, c'est un corps maîtrisé. L'enfant qui ne maîtrise pas cette immobilité dans l'école primaire ou même dans le collège, il est mal vu. Voilà, il est perçu comme un élément perturbateur. Voilà.
Et ça, c'est proprement français, vous pensez?
C'est très français. Voilà.
Vous arrivez à expliquer comment? Pourquoi est-ce qu'en France, le corps passe après l'esprit, l'intelligence?
Je ne sais pas si c'est une volonté de faire passer le corps après l'esprit, mais c'est une longue tradition d'études livresques, voilà, qu'on a hérité depuis fort longtemps, en réalité. Voilà, depuis que ont été mises en place ce qu'on appelle les humanités, les cursus, tous ces cursus qui ont traversé le Moyen-Âge, etc. Et puis peut-être effectivement teinté d'une touche de judéo-christianisme qui veut que le corps n'a surtout pas à exulter à l'école.
Et iriez-vous jusqu'à dire que plus on accorde soin à notre corps, mieux on pense? Que même de manière stratégique, pour mieux penser, pour mieux produire de l'intelligence, il faudrait prendre davantage soin de son corps ou faire davantage d'exercice?
Alors, je ne parlerai pas au nom des autres. Voilà, je ne vais pas me lancer dans ce néo-hygiénisme moralisateur.
Non, mais si vous déplorez l'absence d'enseignement
Je crois que là, on fait référence à des questions de santé publique. Bon, moi, je pense qu'effectivement, un enfant en mouvement apprend mieux. Bon. Je le sais par expérience. D'ailleurs, regardez comment les enfants spontanément apprennent leur table ou leur poésie. La plupart du temps, c'est en tournant autour de la table familiale, c'est en bougeant. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison que cette réalité-là ne puisse pas être exploitée à l'école.
Est-ce que vous jugez votre rôle comme étant politique? Est-ce que c'est un engagement pour vous d'écrire, d'enseigner? Votre rôle de philosophe, cette fois-ci, j'entends.
Oui, transmettre, ça peut avoir effectivement cette fonction-là, même si c'est pas la fonction première que je dirais. Voilà, c'est sûr que la manière dont on transmet, les publics auxquels on transmet, la façon dont on peut aussi œuvrer à une école inclusive. Voilà, on parle aujourd'hui beaucoup de l'école inclusive, sans savoir toujours ce que ça représente. On pense d'abord à l'obligation légale qui est d'accueillir des enfants en situation de handicap dans les écoles ou dans les établissements scolaires ou à l'université. En réalité, l'école inclusive est une école qui est faite pour tous et pour toutes, sachant que tout un chacun, nous avons un risque quel qu'il soit, d'être un jour dans notre existence en situation de faiblesse ou en situation de déficience. Donc il faut aller au-delà de cette question de l'obligation légale et concevoir effectivement son enseignement, alors à la portée ou à l'intention de tous. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi à l'intention de l'hétérogénéité, notamment des étudiants qu'on peut rencontrer, cette hétérogénéité qui n'a cessé de s'accroître. Ça peut dire aussi à l'intention de personnes en situation de handicap. Donc l'école inclusive, c'est une école qui sert à tous et pas simplement aux personnes en situation de handicap comme on le croit trop souvent. De cette manière-là, sans doute que transmettre peut être un acte politique.
Vous enseignez à l'INSEA, l'Institut National Supérieur, Formation et Recherche, Handicap et Enseignement Adapté.
Oui.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors l'INSHEA, c'est un institut qui a une longue histoire, qui est située en haut de la colline du Mont-Valérien à Suresnes et qui a été créée dans les années 30 comme une école de plein air. Donc ça me parle particulièrement parce que on recroise au sein de l'histoire de cette école et bien toute l'histoire de l'éducation physique, de l'hygiène, de la médecine, de la santé, etc. Et donc cet institut aujourd'hui, à notre époque, s'adresse à la fois à des étudiants qui sont en situation de handicap, mais pas seulement, il s'adresse à tous les étudiants, et il s'adresse en particulier à toutes les personnes qui vont travailler en contact avec le handicap. Alors ça peut être extrêmement diversifié, c'est-à-dire que ça peut être des gens qui sont déjà des enseignants et qui se spécialisent pour travailler en école primaire, en collège, etc., pour travailler aussi dans les hôpitaux, ce sont des gens qui se forment aussi à être directeurs d'instituts, d'établissements, etc., ce sont des étudiants qui travaillent pour être conseillers en accessibilité dans les entreprises, dans les instituts, les musées, etc. Donc c'est en fait un brassage de quantité de personnes qui ont un lien avec cette école inclusive. Et on entend aussi par là l'ensemble des vulnérabilités, c'est-à-dire, voilà, ça va de la grande précocité à la question des migrants et des populations allophones, c'est-à-dire aux handicaps sociaux. Voilà, c'est une manière de former des gens à cette société inclusive.
Mais c'était un choix pour vous d'enseigner là-bas, et en cela c'est peut-être un engagement.
Voilà. Tout à fait.
Est-ce que vous militez davantage que par votre enseignement ?
Alors, je milite davantage depuis que je suis en poste à cet endroit-là, bien évidemment, parce que je découvre aussi des choses.
Voilà. Et de quelle façon, quelle forme prend le militantisme ?
Quelle forme prend le militantisme ? Justement, en s'efforçant de dépasser les stéréotypes qu'on a souvent sur les handicaps et la fréquentation des personnes en situation de handicap, parce que j'ai des étudiants en situation de handicap, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et en s'efforçant de réfléchir à ses propres attitudes, à ses gestes, la manière dont on se positionne, dont on parle parfois, dont on s'adresse à quelqu'un, et puis la manière dont finalement cet institut peut résonner aussi au niveau de l'enseignement général, puisque encore une fois, l'école inclusive concerne tout le monde.
Et vous enseignez la philosophie là-bas ?
Du corps et de
philosophie
la santé.
Du corps,
voilà.
Et ouais. De la santé.
Ouais.
Et je vous ai posé la question par rapport à l'enseignement physique. Que pensez-vous de l'enseignement de la philosophie en France et des réformes qui arrivent ? Est-ce que vous êtes inquiète pour cet enseignement-là ?
Oui, alors il y a la question des réformes que je ne connais pas bien. Il y a la question de la place de la philosophie dans l'enseignement et dans la société. Force est de constater que cet enseignement est quand même malmené depuis longtemps et que il se développe dans des conditions qui sont quand même difficiles pour les professeurs de philosophie. C'est difficile parce que c'est aussi contextuel. Voilà, la philosophie, c'est un apprentissage de la pensée, de la réflexion. Ça suppose une certaine temporalité, une certaine durée. Et on est dans des contextes et face à des gens, à des publics, dont la nourriture quotidienne, c'est la vitesse, le zapping, et une manière de faire toujours plein de choses en même temps, qui est, en tout cas, qui peut paraître contraire à cette pratique, on va dire, de la philosophie. Alors, je suis pas catégorique sur ce décalage, mais je suis obligée de constater que les manières dans lesquelles on enseigne la philosophie sont quand même extrêmement inconfortables et pour les professeurs de philosophie et frustrantes pour les publics, les élèves.
Même s'il n'y avait pas forcément une époque où les étudiants étaient particulièrement plus aptes à recevoir l'enseignement de philosophie.
Bien sûr. Mais là, les professeurs de philosophie en lycée font face à d'autres difficultés, c'est-à-dire aux élèves qui ont des oreillettes cachées sous leur chevelure, aux élèves qui sont sur leur téléphone portable sur les genoux. À l'université, tout le monde a un ordinateur. On sait pertinemment que sur cet ordinateur, les gens font plein d'autres choses que d'écouter le cours ou de prendre des notes. Bon, c'est des nouvelles choses, mais il faut s'adapter.
Une dernière question, sur quoi travaillez-vous en ce moment ?
Alors, je travaille sur la création d'une chaire de recherche, voilà, qui va lier handicap, éducation et numérique. C'est pas mal de travail et ça accapare pas mal.
Bien, bon courage.
Merci.
Et merci d'être venu nous parler de votre rapport à la philosophie aujourd'hui. On se quitte avec une chanson que vous aviez également suggérée, qui est chère à votre cœur, c'est Le Grand Corps Malade.
Je suis né tôt ce matin, juste avant que le soleil comprenne qu'il va falloir qu'il se lève et qu'il prenne son petit crème. Je suis né tôt ce matin, entouré de plein de gens bien, qui me regardent un peu chelou et qui m'appellent Fabien. Quand le soleil apparaît, j'essaie de réaliser ce qui se passe. Je tente de comprendre le temps et j'analyse mon espace. Il est 7h du mat sur l'horloge de mon existence. Je regarde la petite aiguille et j'imagine son importance. Pas de temps à perdre ce matin, je commence par l'alphabet. Y'a plein de choses à apprendre si tu veux pas finir teubé. C'est sûr, je serai pas un génie, mais ça va, y'a pire. Sur les coups de 7h30, j'ai appris à lire et à écrire. La journée commence bien, il fait beau et je suis content. Je reçois plein d'affection et je comprends que c'est important. Il est bientôt 9h30 et j'aborde l'adolescence. En pleine forme, plein d'envie et juste qu'il faut d'insouciance. Je commence à me la raconter, j'ai plein de potes et je me sens fort. Je garde un peu de temps pour les meufs quand je suis pas en train de faire du sport. Emploi du temps bien rempli et je suis à la bourre pour mes rencarts. Putain, la vie passe trop vite, il est déjà 11h moins le quart. Celui qui veut me viser, je lui conseille de changer de cible. Me toucher est impossible, à 11h je me sens invincible. Il fait chaud et tout me sourit, il manquait plus que choix amoureux. C'est arrivé sans prévenir, sur les coups d'11h moins 2. Mais tout à coup, alors que dans le ciel, il n'y avait pas un seul nuage à éclater au-dessus de moi, un intolérable orage. Il est 11h08, quand ma journée prend un virage, pour le moins inattendu, alors je tourne mais j'ai la rage. Je me suis pris un éclair comme un coup d'électricité. Je me suis relevé mais j'ai laissé un peu de mobilité. Mes tablettes de chocolat sont devenues de la marmelade. Je me suis fait à tout ça, appelez-moi grand corps malade. Cette fin de matinée est tout sauf une récréation. À 11h20 je dois faire preuve d'une bonne dose d'adaptation. Je passe beaucoup moins de temps à me balader rue de la Rep, et j'apprends à remplir les papiers de la Cotorep. J'ai pas que des séquelles physiques, je veux pas faire le Tommy, mais y'a des cicatrices plus profondes qu'une trachéotomie. J'ai eu de la chance, je suis pas passé très loin de l'échec et mat, mais j'avoue que j'ai encore souvent la nostalgie de 10h du mat.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. C'est incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, vous vous questionnez sur les affinités possibles avec l'art contemporain.
Et je ne suis pas la première, mais ce week-end, à Paris, deux événements permettent de poser encore une fois cette question. Alors le premier événement a lieu Porte de Versailles, au Parc des Expositions, dès ce soir et jusqu'à dimanche s'y tiendra le Salon International d'Art Contemporain, Art 3F. Ambiance conviviale, rencontre avec les artistes et possibilité d'acquérir des œuvres habituellement hors de prix, c'est la promesse de Art 3F, allant ainsi contre toutes les étiquettes qu'on accole au monde de l'art contemporain, à savoir snob, élitiste, fumeux et clivant.
Tu sais, tu vas être étonné.
Oui.
Je n'ai pas aimé, hein, mais je n'ai pas détesté ce tableau.
Bah évidemment, on ne peut pas détester l'invisible. On ne déteste pas le rien.
Non, il y a quelque chose. Hein.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Non, il y a quelque chose.
Ça n'est pas rien.
Tu plaisantes.
Mais absolument pas. Pas du tout. Moi, je ne suis pas aussi sévère que toi. Hein. C'est une œuvre. Il y a une pensée derrière ça.
Une pensée?
Il y a une pensée.
Quelle pensée?
Difficile de parler d'art contemporain sans avoir en tête la pièce « Art » de Yasmina Reza. On y retrouve tous les clichés de l'art contemporain, mais peut-être en premier lieu l'incompréhension dont il fait l'objet. Que l'on se trouve face à une de ses œuvres, que l'on en parle entre amis ou que l'on écoute les discours des artistes, prédomine souvent ce sentiment. L'incompréhension. Que peut bien nous raconter ce monochrome? Que nous dit cette œuvre? Que nous dit cet artiste ou cet ami? Pourquoi l'œuvre ne semble-t-elle pas se suffire à elle-même? Alors, comme je le disais, la question n'est pas neuve et l'art contemporain, parce qu'il se veut volontairement incompréhensible ou parce qu'il est profondément incompris, a tout naturellement donné lieu à une foule d'essais. Parmi ceux-là, on peut par exemple citer en français La querelle de l'art contemporain de Marc Jiménez, La crise de l'esthétique et l'art à l'état gazeux d'Yves Michaud, L'art contemporain, histoire et géographie de Catherine Millet ou encore Le paradigme de l'art contemporain de Nathalie Hennisch, entre autres. Volonté d'en éclaircir l'intention et les enjeux, souci de l'inscrire dans une histoire de l'art, pamphlet critique ou défense acharnée de sa radicalité, toute cette production est paradoxale car en voulant recadrer conceptuellement l'art contemporain, en voulant le rendre compréhensible ou en tentant de calmer les esprits, elle n'a pas forcément apaisé les a priori et les conversations entre amis. De là cette question, jusqu'où la proximité avec une œuvre, par le prix, par le discours, l'ambiance, par la théorie, etc., peut-elle assurer une affinité avec celle-ci? Faut-il d'ailleurs à tout prix tenter d'être proche d'une œuvre pour s'en faire une idée, un goût, en parler pour qu'elle nous fasse quelque chose.
En 2009, plus de 400 personnes ont abandonné leur quotidien afin de s'immerger dans l'Union soviétique de 1938. Coupés du monde moderne, ils ont vécu et travaillé pendant 2 ans dans un institut secret de recherche soviétique. Le fait de se retrouver dans un monde à la fois étrange et familier leur a permis de faire de nouvelles découvertes personnelles et scientifiques. Ils sont tombés amoureux, ont trahi leurs amis, tromper leurs conjoints, tenter de nouvelles expériences. Ils ont vieilli, eu des enfants, ils ont été emprisonnés ou assassinés. Ils ont voyagé à travers 3 décennies, achevant leur périple en 1968, transformés à jamais. Plus de 700 heures de leur réaction réelle et spontanée face à ces circonstances extraordinaires ont été filmées. 13 longs métrages et un nombre de séries ont été créés. L'expérience continue.
L'affinité avec une œuvre passe-t-elle forcément par la proximité, l'accessibilité, par sa vulgarisation, par le fait aussi de la rendre sympathique? Le deuxième événement qui a lieu en ce moment même à Paris, c'est ce projet fou dont on a entendu ce qui ressemble à une bande-annonce, le projet DAO. Théâtre, exposition, visionnage, ce projet total mise depuis le début sur sa dimension immersive. On retrouve ici l'idée d'être proche d'une œuvre et même plus que d'approcher l'œuvre, on en fait partie. Ce qui est intéressant ici, c'est ainsi cette volonté d'intégrer le spectateur à l'œuvre, que celle-ci ne fonctionne pas sans public ni participant. Cependant, jusqu'ici, les impressions des visiteurs seraient plutôt mitigées, l'expérience ne serait pas à la hauteur du projet. Alors certes, l'immersion est là, la proximité est assurée, mais ça ne prendrait pas. De la proximité à l'affinité, de l'immersion à la compréhension, il n'y aurait donc pas qu'un pas, il y aurait un fossé. C'est précisément ce problème que les chercheurs et universitaires Estelle Zong-Mangal et Baptiste Morisot ont soulevé dans un essai paru au Seuil Esthétique de la Rencontre. Ce problème, pour eux, n'est pas celui de la proximité avec l'art contemporain, mais celui de la rencontre. Car si la proximité suppose de mettre en contact 2 objets bien séparés, la rencontre, elle, a ceci de particulier qu'elle met en lien 2 êtres, spectateurs et œuvres, disponibles à l'autre et susceptibles d'être transformés l'un à travers l'autre. Alors certes, il y a des rencontres ratées, mais l'idée est là, ne pas changer le spectateur de l'art contemporain ou ne pas rendre accessible ni sympathique l'œuvre, mais tenter au sens premier de l'affinité, une combinaison des deux.
Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission avec Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Mathieu Tarpin, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Emmanuel Morzincan qui était la prise de son aujourd'hui. On se retrouve lundi pour une nouvelle série d'émissions consacrée à Lévinas en partenariat avec Philosophie Magazine. On se demandera comment faire face, enfin on demandera à Lévinas comment faire face en proposant le portrait de ce philosophe captif. On se demandera comment rencontrer autrui, s'il y a une fin à l'infini. Et enfin le cinéaste Luc Dardenne grand lecteur de Lévinas, viendra vous en parler. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, vous pouvez réécouter l'émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. Allez, on se retrouve lundi à 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur
France Culture.